Roger Lemann, 20 mars 2011, sur Radio Silence. Bible, liturgie et Magnalia Dei, motu proprio du 7 juillet 2007. Bonjour, chers amis de Radio Silence. Nous sommes aujourd'hui, le dimanche 20 mars, deuxième dimanche de Carême. Après les deux précédentes causeries, consacrées à des traductions défectueuses, nous restons dans la liturgie en parlant du motu proprio. Simple question. Les deux mots, motu, proprio, évoquent-ils quelque chose pour vous? La locution latine motu proprio signifie « de son propre mouvement ». Le motu proprio est une lettre émise par le pape de sa propre initiative, de son propre mouvement, ainsi appelé de ses deux premiers mots en latin. De même qu'il existe des lettres encycliques, circulaires adressées à tous les évêques, il y a tout un vocabulaire pour ces écrits du pape. Aujourd'hui, nous parlons du motu proprio du 7 juillet 2007. 7, 7, 7, trois nombres sacrés. Motu proprio désigné donc par ses premiers mots, Sommorum Pontificum, le souci des souverains pontifes a toujours été, etc. L'objet de ce motu proprio était de redéfinir le cadre juridique de la célébration de la messe. Lorsque j'ai été baptisé, il y a longtemps, ou lorsque j'ai fait ce que l'on appelait à l'époque ma communion solennelle, ou encore lorsque je me suis marié, il n'y avait qu'une seule messe, sauf quelques rites particuliers. Puis est arrivé le Concile, en 1962, qui n'a rien changé, mais qui a émis des souhaits de réforme de la liturgie. L'Église veut travailler à la restauration générale de la liturgie elle-même, était-il dit dans le premier document du Concile Vatican II, Constitution Sacrosanctum Concilium, du 4 décembre 1963, sur la liturgie. Le Concile Vatican II a pris fin en 1965. Et voilà qu'en 1969, l'on a vu apparaître une nouvelle messe. Cette nouvelle messe est celle à laquelle la majorité des catholiques assistent dans nos paroisses, aujourd'hui et depuis plus de 40 ans, tout au moins ceux, de moins en moins nombreux, qui vont encore à la messe. Cette messe n'est donc plus nouvelle pour eux. Je ne parle pas, bien sûr, des fidèles que l'on dit tradis. De sorte que les non-quadragénaires actuels n'ont connu que cette messe. Un des changements les plus apparents que l'on constata en 1969, lorsqu'apparut cette nouvelle messe, était qu'elle était célébrée non plus en latin, mais en français, ou, pour parler le langage nouveau de l'époque, en vernaculaire, mot qui signifie « de l'esclave né dans la maison ». C'était donc la langue de la maison. Et cette nouveauté était presque, il faut le souligner, anticonciliaire. En effet, le Concile déclarait « l'usage de la langue latine sera conservé dans les rites latins ». Toutefois, on pourra accorder une plus large place à la langue du pays, surtout dans les lectures et les monitions et un certain nombre de chants. Ainsi, le vernaculaire, le français, d'exceptionnel pour le Concile, était devenu pratiquement le général. La suppression du latin fut, pour les esprits peu tournés vers le caractère liturgique de la messe, la différence apparente la plus importante entre ces deux formes de la messe. Certes, bien que le latin soit l'une des trois langues sacrées, avec l'hébreu et le bré et le grec, évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 20, l'abandon du latin pouvait être considéré comme acceptable. Ce n'est du reste pas Rome, mais la France, qui, de façon parfois irrégulière, a imposé le français, suivant en cela certains groupes de pression qui, à partir de cas isolés, voire les créants, en firent le cas général, comme cela se produisit pour la communion dans la main, procédé du reste courant dans notre société avortement, contraception, euthanasie, etc. Ce changement fondamental, mis à l'écart du latin, avait prétendument pour objet de permettre une meilleure intelligibilité. À vrai dire, les lectures, épîtres, évangiles, voire des oraisons à nos messes de scouts d'autrefois en latin, avaient toujours été dites en français. Fallait-il que les autres prières, dites à voix basse, secret du mystère des prières du canon, que l'on pouvait trouver dans son missel, fussent officialisées en français? Il est peu probable que beaucoup de fidèles les écoutent aujourd'hui qu'elles sont dites en français. Mais en revanche, l'adoption du vernaculaire a eu des effets nocifs. Traduction erronée, libre champ à la créativité, point que je réserve pour une autre fois. Il y eut un certain nombre d'autres changements, ce n'est pas le lieu de les dénombrer. Disons seulement en positif. Les lectures, antérieurement appelées épîtres évangiles, étaient renouvelées au nombre de trois et étalées sur un cycle de 3 ans, ce qui permettait de passer en revue beaucoup de textes de la Bible. En revanche, on ne peut qu'être frappé par l'amoindrissement du sens du sacré, diminution du nombre de signes de croix, d'agenouillement, de signes trinitaires, Kyrie, Domine non sum illinus, l'âme, la damnation éternelle ne sont plus évoqués. Dans l'expression toujours vierge, le mot toujours a été supprimé, etc. D'autre part, la profession de foi de Paul VI du 30 juin 1968 disait: la messe, célébrée par le prêtre in persona Christi, est le sacrifice du calvaire, réactualisé sur l'autel. Avec la nouvelle messe, cet aspect sacrificiel semble quelque peu estompé au profit de l'aspect rassemblement. Le prêtre ne dit pratiquement plus jamais les paroles centrale de la consécration, Mysterium Fidei, le mystère de la foi, qui est la présence réelle et corporelle du Christ, transsubstantiation, au profit de sa présence réelle et spirituelle, comme le veulent les protestants. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, verset 20. Cette messe dite de Paul VI, Paul VI étant le pape de l'époque, de 1963 à 1978, se substituait à la précédente, dite de Saint-Pie V, ou encore de rite tridentin, c'est-à-dire du Concile de Trente, 1563 ou même plus tôt. Elle existait toutefois encore en 1962, du temps du pape Jean XXIII. Ce pourquoi, pour ne pas effaroucher les fidèles, Benoît XVI, plutôt que de dire messe de Saint-Pie V, l'appela messe du bienheureux Jean XXIII, dernier pape, après des siècles, qu'il avait connu, ce qui était la même chose. Ainsi, pendant cette période de près de 40 ans, la messe antérieure fut considérée par certains comme interdite, ce qui ne pouvait être. C'était en effet depuis des siècles la messe de nos ancêtres. Des dissensions de plus en plus vives se produisirent pendant près de 4 décennies entre catholiques attachés les uns à la forme ancienne, les autres à la forme nouvelle. Les premiers dits traditionalistes, les seconds progressistes. Alors que la tradition est l'un des piliers de l'Église avec l'Écriture. C'est alors que Benoît XVI nous donna ce 7 juillet 2007 le motu proprio summorum pontificum. Benoît XVI rassurait pleinement ceux qui auraient pu être inquiets. L'histoire de la liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui rappelle son discours du 22 décembre 2005, herméneutique de la continuité, herméneutique de la rupture. Ce qui était sacré pour la génération précédente reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l'improviste se retrouver totalement interdit. Fin des paroles de Benoît XVI. Notons qu'il avait déjà clairement dit la même chose il y a plus d'un quart de siècle lorsque, en tant que cardinal Ratzinger, il avait été interviewé par Vittorio Messori, journaliste italien. Ce fut le livre « Entretien sur la foi » de 1985. Et Benoît XVI précisait « Le missel publié par Paul VI et réédité ensuite à deux reprises par Jean-Paul II est et demeure évidemment la forme normale, la forma ordinaria, de la liturgie eucharistique. Quant à la version du Missale Romanum antérieure au Concile, publiée sous l'autorité du pape Jean XXIII en 1962 et qui a été utilisée durant le Concile, elle pourra en revanche être utilisée comme forma extraordinaria de la célébration liturgique. Il n'est pas convenable de parler de ces deux versions du Missale romain comme s'il s'agissait de deux rites. Il s'agit plutôt d'un double usage de l'unique et même rite. Ainsi apparaissait une forme extraordinaire, messe ancienne de Jean XXIII ou de Pie V, et une forme ordinaire de la messe, messe de Paul VI. Une forme solennelle, la forme extraordinaire, celle pratiquée par nos ancêtres pendant des siècles, et une forme simple, la forme ordinaire, utilisée par les fidèles de nos paroisses depuis 4 décennies. Notons tout de même, 4 décennies, 40 ans d'un côté, ce qui est peu, 14 siècles de l'autre. L'appellation extraordinaire signifie tout simplement « sortant de l'ordinaire ». Dans la vie de tous les jours, nous menons nos activités d'une façon habituelle, ordinaire, et de temps en temps, quand se présente un événement particulier, mariage, obsèque, ou célébration occasionnelle, nous souhaitons marquer cet événement d'une façon différente. Repas plus riche, chants, danses, fêtes, etc. D'une façon sortant de l'ordinaire, disons extraordinaire. Cela étant, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que notre pape a voulu que tout fidèle ait la possibilité de ce choix, tout en sauvegardant la paix et la sérénité. On comprend que certains souhaitent pour la messe se limiter à la forme ordinaire. On comprend aussi que d'autres soient davantage attirés par la forme extraordinaire plus riche. Comme Benoît XVI le souligne, il n'y a aucune contradiction entre l'une et l'autre édition du Missale Romanum. La messe, quel que soit le rite retenu, reste le sacrifice unique du Christ sur la croix, à Pax, c'est-à-dire une seule fois, pour reprendre le terme grec de saint Paul, actualisé chaque jour, chaque minute, en tout lieu de la terre. Il n'y a pas une vraie messe et une fausse messe, il y a une messe unique. Ou encore, pour reprendre les mots de Joseph Ratzinger dans son dernier livre « Jésus de Nazareth », tome 3, le tome 1 attendu concernera l'enfance du Christ, le tome 2 déjà publié étant consacré à la vie publique, ce que l'Église célèbre durant la messe, ce n'est pas la dernière scène, mais ce que le Seigneur, durant la dernière scène, a institué et confié à son Église, la mémoire de sa mort sacrificielle. Et encore plus loin, Joseph Ratzinger dit, la messe, c'est essentiellement Jésus ressuscité. Nous voudrions que l'idée se fasse jour, que ce choix souhaité par le pape devienne effectif dans chaque paroisse, que chaque fidèle fasse comprendre cela à son curé. Je vous remercie.